Cet épisode est diffusé dans le cadre du Podcaston 2024.
Dans les films, on voit pas du tout des personnes qui disent « Est-ce que je peux t'embrasser ? Est-ce que je peux te toucher là ? Est-ce que je peux te faire ça ?» Donc, finalement, ils sont pas du tout habitués à ça. Et donc, c'est un peu déconstruire le fait que c'est super gênant de demander, qu'il faut surtout pas demander, parce que après, on a l'air de quoi. C'est un peu, du coup, rendre cette notion positive, quoi, et que ce soit pas associé directement consentement, viol.
Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare? Et après, comment on s'en sort financièrement? Et pour les vacances, on fait quoi? La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interviewe des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire ceci. À 14 ans, on n'est pas censé être attendu par un homme de 50 ans à la sortie de son collège. On n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche, à l'heure du goûter. Cet extrait est issu du livre Le Consentement de Vanessa Springora que vous avez peut-être lu et dans lequel elle raconte comment, à 14 ans, elle est tombée sous l'emprise d'un écrivain célèbre de 50 ans avec qui elle aurait une liaison dont les terribles conséquences continueront longtemps de hanter sa vie de jeune fille puis de femme. Pourquoi parler de cela aujourd'hui ? Parce que la question du consentement, notamment quand on est mineur, est une étape essentielle à toute relation sexuelle et qu'en tant que parent, mais aussi en tant qu'adulte, vous vous posez certainement des questions sur ce terme dont on entend de plus en plus souvent parler dans les médias et la littérature, sans pour autant toujours en mesurer la teneur et l'importance. Certains pays comme la Belgique, le Canada et bientôt la Suisse commencent à définir le consentement dans leurs codes pénaux, justement parce que le défaut de consentement est la porte ouverte aux abus sexuels. Aujourd'hui, je vous propose donc un épisode spécial. Vous le savez peut-être, nous sommes dans la toute fin du Podcaston, cet événement pendant lequel, durant 7 jours, près de 400 podcastrices et podcasteurs francophones se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif, et j'avais très envie de faire partie de l'aventure, notamment parce que je suis admirative du travail que fournissent ces nombreuses personnes qui, un jour, au détour d'une rencontre, à la lecture d'un article, au cours d'un voyage, ou à la suite d'un drame personnel, décident de se mobiliser autour d'une cause qui leur est chère pour aider les autres ou essayer de changer un monde où l'on voit encore trop souvent l'humain relégué à l'arrière-scène. Mes invités du jour sont un peu différentes des invités que vous avez l'habitude d'entendre dans le podcast. Elles ne sont pas mamans séparées, elles ne travaillent pas dans le domaine du divorce ou de la séparation, mais elles défendent une cause essentielle, un sujet que l'on devrait toutes et tous intégrer dans nos quotidiens, dans celui de nos proches et notamment celui de nos enfants. Le consentement. L'épisode vous rappellera certainement les récentes affaires de violences sexuelles dévoilées dans le monde du spectacle, mais aussi pour les auditoristes belges qui nous écoutent, le hashtag Balance ton bar, apparu sur les réseaux sociaux en 2021, et qui a provoqué une onde de choc dans le pays en révélant un nombre hallucinant d'agressions sexuelles commises dans les bars et l'impunité qui les entourait. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir l'association EduConsent dans le podcast. N'hésitez pas à aller les soutenir, je vous mets tous les liens en note de l'épisode. Bonne écoute. Épisode 33, EduConsent. C'était un vendredi de mars, il pleuvait dru sur Bruxelles, et j'avais rendez-vous au siège de l'association EduConsent avec deux de ses fondatrices, Mélodie Goertz et Romane Sauvage. L'association a été lancée en 2020 et se consacre à la sensibilisation et à l'éducation au consentement pour les personnes de tout âge. Son objectif, faire en sorte qu'adultes et enfants comprennent l'importance du consentement, que ce soit dans leur interaction quotidienne ou dans leurs relations intimes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons chiffres. En Belgique, près d'un ou une Belge sur deux a subi des agressions sexuelles, selon Amnesty International, et 20% des femmes et 14% des hommes déclarent avoir subi un viol. En France, une enquête de l'association Nous Toutes révèle qu'une femme sur six a fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti. En Suisse, une enquête d'Amnesty a révélé que 22% des femmes avaient subi des actes sexuels non consentis à partir de l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, nous allons revenir avec Mélodie Goertz et Romane Sauvage sur ce concept du consentement, ce qui le rend effectif et sur la manière dont il doit s'exprimer en pratique. Nous allons aussi explorer les différentes options de défense qui s'offrent à celles et ceux qui ont subi une agression sexuelle. Vous allez notamment voir que les réactions des personnes agressées sont différentes et qu'il est important de ne pas les minimiser. Nous allons aussi plonger dans les animations que Romane organise dans les écoles et découvrir les principales préoccupations des enfants et adolescents quand on évoque le consentement. J'ai beaucoup aimé cet entretien avec Mélodie et Romane, je l'ai trouvé riche, éclairant et sans tabou. J'espère vraiment qu'il fera écho chez vous. Surtout, n'hésitez pas à aller soutenir EduConsent dans leur démarche et à faire appel à leur service. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute!
Je m'appelle Mélodie Goertz, j'ai fondé EduConsent il y a 3 ans. Mon rôle au sein de l'ASBL est plutôt en tant que coordinatrice générale de l'ASBL, un peu pour les vues plus stratégiques du projet, et surtout je suis responsable de la recherche de financement.
Je m'appelle Romane et moi j'ai fait un master en sciences de la famille et de la sexualité. Du coup, je m'occupe au day-to-day de l'ASBL, donc tout ce qui est organisation, tout ce qui est côté un peu plus administratif, mais surtout, donc je m'occupe de faire les programmes pédagogiques et donc de donner les animations, que ce soit aux adultes ou aux plus jeunes, sur le consentement, du coup.
Alors, votre association, elle s'appelle EduConsent, c'est une association belge. C'est une association qui se consacre à la sensibilisation et à l'éducation au consentement. Vous organisez des campagnes, des ateliers, des conférences. Est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer pourquoi vous avez décidé de lancer cette association ?
On a décidé de lancer l'ASBL car on est toutes les deux souvent à papoter ensemble de sujets qui peuvent nous travailler, notamment tout ce qui est un peu violence sexuelle et de genre. Et donc on a pas mal réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait, nous en tout cas, mettre notre pierre à l'édifice pour avoir un impact positif là-dessus et permettre de réduire ces violences. Et donc on s'est dit que le consentement était vraiment au cœur en fait du problème, puisque sans consentement il y a agression sexuelle. Et donc c'est pour ça que on s'est dit que via l'éducation en fait, expliquer ce qu'est le consentement était le meilleur levier pour toucher un maximum de personnes. S'assurer qu'il y a une vraie compréhension durable du principe et de la notion du consentement, et donc éviter potentiellement à terme qu'il y ait des agressions sexuelles.
C'est vrai que votre association, elle s'inscrit aussi dans un après-MeToo qui est de plus en plus fort, où on a beaucoup de secteurs, notamment dans l'audiovisuel, qui ont commencé à dénoncer des violences sexuelles. Je pense très dernièrement, l'actrice française Judith Godrèche, et puis aussi des hommes, des comédiens aussi, qui sont en train de lever le voile sur une partie assez sombre de leur carrière, ou en tout cas de leur expérience cinématographique où ils se sont fait abuser sexuellement. Et puis, parce qu'on est quand même en Belgique, il y a eu tout un phénomène aussi autour du viol et des violences sexuelles dans les bars. Il y a eu un hashtag balance ton bar hein, qui a été publié, il me semble, sur les réseaux sociaux, il doit y avoir 2 ans maintenant.
Ouais.
Et donc, qui a récolté un nombre assez impressionnant de témoignages de femmes qui s'étaient fait, et d'hommes aussi, surtout de femmes, qui s'étaient fait abuser dans les bars. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué ou qui vous a même peut-être inspiré?
Ben, je pense pas que ça a joué dans la création de l'ASBL parce que c'est plus venu après, mais c'est sûr que ça s'inscrit dans un contexte où en fait il y a tellement de problèmes qu'il faut essayer de trouver où est le problème, et je pense que le problème est beaucoup plus systémique que personnel. Évidemment, il y a des personnes qui sont mauvaise, malveillante, tout ce qu'on veut, mais il y a vraiment un problème systémique de la société patriarcale dans laquelle on vit, et du coup du pouvoir dont certains, parce que c'est quand même, les violences sexuelles sont quand même souvent des violences sexistes, peuvent abuser. Et donc oui, c'est sûr que ça renforce en fait la pertinence de ce qu'on fait.
D'ailleurs, sur votre site, vous reprenez quand même des chiffres édifiants. Mmh. Vous dites que selon une étude d'Amnesty Belgique, j'imagine,
ouais.
48% des Belges ont été exposés à de la violence sexuelle. C'est quand même une personne sur deux quasiment en Belgique, c'est énorme. Un homme sur deux estime qu'une victime peut être en partie responsable. Ça aussi, je trouve que ça en dit long sur l'état de notre société.
Ouais.
Vous dites que 20% des femmes ont été victimes de viol. Ça, je crois que c'est un chiffre qui est aussi, je pense, assez similaire dans d'autres pays francophones où on nous écoute. Et puis, vous dites aussi que un jeune sur cinq pense qu'il ne peut pas être accusé de viol quand il se trouve dans une relation de couple. Alors ça aussi, c'est quand même assez interpellant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Mais ça, c'est un peu la grande question qu'on s'est posée quand, justement, on a voulu démarrer du consent. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que vraiment rendre accessible cette notion, et en parler justement, Romane parlait des personnes vraiment malveillantes. Tout le monde n'est pas malveillant, on n'a pas spécialement envie d'être un agresseur ou une agresseuse. Et donc, c'est outiller en tout cas les jeunes pour qu'eux puissent comprendre au mieux qu'est-ce qu'est le consentement chez l'autre, pour éviter qu'il y ait une incompréhension par rapport à ça, qui puisse mener à des violences. Et puis après, il y a encore tous les autres chiffres, effectivement, que vous avez cités, qui indiquent qu'il faut vraiment débunker un peu cette culture du viol qui est encore persistante, où effectivement un agresseur sur deux peut penser qu'une victime est partiellement ou complètement responsable de son agression.
Mais ça, donc c'est un homme sur deux,
ouais.
Et comment on explique ça? Parce que vous parlez effectivement de problèmes systémiques dans notre société. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme sur deux pense que la victime est en partie responsable? Ça vient d'où?
Ben, je pense que ça vient de il y a très longtemps. Je pense que la sexualité, avant, elle était vraiment liée au mariage et à la procréation. Et que, en fait, là, maintenant, la sexualité est aussi liée au plaisir, enfin, depuis quelques années, quand même. Et que, du coup, ça a été aussi une libération pour les femmes, qui a été difficile à accepter, je pense, pour certains hommes, parce que, du coup, c'est aussi le fait que la femme puisse avoir une sexualité pour son plaisir. Et donc, la sexualité, la sexualité n'appartient plus entièrement à l'homme, et donc à ce côté déjà de devoir conjugal qui s'en va, en fait, là où le viol, ça fait que depuis très récemment qu'il est pénalisé en fait au sein d'un couple. Donc c'est quand même, ça en dit long, je trouve, d'où vient le problème. C'est qu'en fait la sexualité a toujours été un dû, et ça a été très différent pour les femmes ou pour les hommes. Pour les hommes, c'était la femme était un objet sexuel, et l'est encore pour beaucoup d'hommes, là où l'homme n'a pas vraiment été un objet sexuel pour la femme. Donc il y a tout ça, et puis les croyances. Je pense que du coup, le fait de dire qu'une victime est en partie responsable de son agression, ça vient de plein de croyances différentes. On a souvent appris aux femmes à être polie, gentille, douce, à dire oui en fait, et à l'homme à prendre ce qu'il a envie, à foncer, et donc ça vient aussi de là, je pense. Enfin, c'est pour ça que c'est systémique. C'est pas la faute à personne non plus, mais
c'est inscrit dans nos modes de pensée, dans notre culture.
Ça vient de loin, quoi. Mm-hmm. C'est pas nouveau, quoi.
Et surtout, il y a aussi, je pense, toujours eu un peu une sexualisation de la femme, qui fait que on imagine. Enfin, pour ça que certains peuvent encore penser aujourd'hui que qu'une femme objet sexuel, donc si habillée d'une certaine façon, c'est normal qu'elle soit sexualisée, et que donc s'il lui arrive quelque chose, c'est de sa faute parce que est vue de telle façon. Et donc c'est là où on rejoint aussi toutes les questions de slut shaming.
Ça veut dire quoi, slut shaming?
Mais où du coup on va critiquer très fort une femme par rapport à son comportement sexuel ou par rapport à comment elle s'habille.
Il y a quand même le double standard des sexes, donc qui fait qu'un homme est jugé. Un homme et une femme sont jugés différemment pour les mêmes choses. Donc, par exemple, un homme qui aura couché avec plus de 20 femmes, c'est considéré comme normal. Une femme qui aura couché avec plus de 20 hommes, c'est considéré comme un peu borderline. Donc, enfin, là, on voit quand même qu'il y a encore un problème et encore une différence entre les deux, quoi.
Votre association, elle tourne autour du consentement. D'abord, c'est ça qui vous intéresse. Comment est-ce qu'on peut définir le consentement? Qu'est-ce que ça veut dire, donner son consentement? Parce que je pose cette question aussi parce que je trouve que parfois il y a aussi beaucoup de blagues autour de ça, et peut-être qu'on va revenir là-dessus d'ailleurs parce que ça décrédibilise tout le débat sur le consentement. Pour vous, première question, qu'est-ce que c'est que le consentement?
C'est des critères qui sont un peu repris par plusieurs associations, qu'elles soient féministes ou même des associations en général qui parlent du genre, et même la loi en fait. Donc le fait que le consentement doit être libre, éclairé et conscient. Donc libre, ça veut dire libre de toute contrainte, mais donc c'est pas que le fait que il y a pas une position d'autorité en face de nous, c'est aussi le fait d'insister, d'essayer de convaincre. Là, on enlève déjà de la liberté à la personne. Quand on a des éléments aussi qu'on sait qui peuvent enlever de la liberté à la personne, par exemple si la personne nous aime bien, ben forcément ça donne aussi du pouvoir qui est moins comme le pouvoir d'un boss envers envers une employée, mais ça reste un certain pouvoir. Sauf que c'est moins logique qu'il y ait une position de pouvoir, mais c'est quand même une position de pouvoir de détenir des informations qui peuvent influer sur le choix de la personne. Éclairer, donc ça c'est vraiment savoir à quoi on consent. Et puis conscience, c'est simplement bah, le fait d'avoir l'âge de consentir.
Et c'est quel âge à quel âge on peut consentir?
Ben la loi dit que la majorité sexuelle est à partir de 16 ans. En fait, on considère qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment une possibilité de pouvoir donner son consentement, de savoir en fait dans quoi on s'engage quand on s'engage dans une relation sexuelle, quoi. Donc ça, c'est au niveau de la loi. Et puis il y a l'enthousiasme que je trouve très important parce que là, c'est vraiment écouter le non-verbal, enfin plutôt voir le non-verbal de la personne. Écouter aussi le paraverbal, donc la façon dont on dit les choses. Si on fait un petit oui, ok, ou un oui, j'ai envie, il y a quand même une différence. Et quelqu'un qui pense plus à soi-même va entendre le petit oui comme un vrai oui. Alors qu'en vrai, il faut entendre le oui enthousiaste, quoi. Mmh. Et aussi dans les gestes, etc. Et c'est l'enthousiasme, c'est aussi la réciprocité, ça part du dialogue, de l'empathie, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, en fait, quoi.
D'accord, parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément exprimer de manière enthousiaste son consentement. Donc,
ouais. Mais c'est vrai que ça c'est une bonne question et c'est ce que les élèves nous disent aussi souvent. C'est oui, mais parfois on va peut-être dire parce qu'on a peur ou parce qu'on est gêné, parce qu'on n'ose pas faire un grand oui. Mais dans ce cas-là, en fait, il faut juste poser la question. En fait, t'as pas l'air d'avoir très envie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Est-ce que si t'as pas envie, t'inquiète pas, c'est de relaisser, en fait, de créer un espace bienveillant pour laisser la liberté à l'autre de pouvoir dire non. C'est plus ça. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui peuvent se jouer dans la façon dont on répond à quelque chose. Mais donc, il faut juste garantir l'espace bienveillant où la personne peut encore s'exprimer. Mais poser des questions, c'est pas un problème non plus. On n'est pas dans un système où...
Tout à fait. Le dialogue est quand même possible. La communication est possible, même dans le feu de l'action.
C'est ça.
mais en fait, la loi belge a inscrit le consentement dans son article 475.5 ou 475.5 du Code pénal. Et elle dit ceci. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Quel conseil vous donneriez à un mineur ou à un jeune adulte, ou même à un adulte, une adulte qui nous écoute et qui a le sentiment de ne pas avoir donné son consentement?
Qui a le sentiment de ne pas l'avoir donné?
Oui, d'avoir été abusé finalement. Okay. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il y a plusieurs instances vers qui on peut se tourner. Il y a le centre de prévention des violences sexuelles, donc qui est un centre où ben, il y a une aide juridique, psychologique, médicale, et qui va aussi s'occuper de prendre tout ce qui est preuve matérielle en fait pour une potentielle plainte. C'est pas du tout des personnes qui vont vous pousser à faire quoi que ce soit. En fait, c'est juste des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a aussi les plannings familiaux.
Ça veut dire que il faudrait se rendre dans un de ces centres suite à cet acte sexuel qui n'a pas été consenti directement.
Mais c'est pas évident pour les victimes de prendre cette démarche, surtout qu'en fait, bah, pour pouvoir, si après la victime veut porter plainte, il y a un intérêt à y aller tout de suite parce que bah, ça se repose les quatre plaintes sur des preuves matérielles qui sont déjà très rares. et surtout qui présume que la victime irait tout de suite voir des médecins pour prendre les preuves. Ce qui n'est pas fréquent, et c'est normal parce que ça prend souvent beaucoup de temps pour une victime de se sentir vraiment victime et de comprendre ce qui lui est arrivé, et même de se sentir légitime, en fait, de faire ces démarches. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui existe. Je pense que pour les centres de prévention, une victime peut aller jusqu'à 2 mois après une agression.
Mais il reste encore des traces 2 mois après ?
Non, il reste plus de traces, mais c'est plus pour un soutien quand même psychologique et juridique. Et puis après, il y a toujours aussi SOS Viol qui existe, qui a une ligne d'écoute qui est présente aussi pour pouvoir prendre juste un soutien en fait de présence et puis pour pouvoir guider et aiguiller les victimes. Mais c'est clair que c'est pas évident parce que chaque personne réagit différemment et chaque personne a besoin d'un soutien différent aussi suite à ça. Certaines personnes peuvent prendre des années pour se sentir victime, s'en rendre compte de ce qui s'est passé. En plus, il y a aussi souvent des cas de
dissociation.
Oui. Qui fait que bah, parfois, c'est après des années seulement qu'on se rappelle de ce qui nous est arrivé.
Bon, il y a l'amnésie traumatique, il y a le déni, il y a la dissociation.
Qui est quelque chose que les gens ne comprennent pas toujours, en fait. On entend assez souvent, mais pourquoi cette personne a mis 15 ans à réagir ? Pourquoi ?
Ouais.
Alors que ça s'explique justement tellement bien par ce phénomène de l'amnésie traumatique qui fait qu'on oublie les moments extrêmement douloureux qu'on a pu vivre dans ce genre de situation pour se protéger, en fait. C'est le cerveau qui juste fait un blackout pour se protéger.
Oui, mais pour ça aussi, maintenant qu'on forme vraiment les magistrats, le parquet, etc., pour comprendre ce phénomène-là, parce que c'est vraiment très spécifique et lié à ces agressions sexuelles. Et plus que tout aussi, nous, on entend beaucoup des victimes qui ne se sentent pas légitimes et qui, ça aussi, fait que ça peut prendre des années avant de vraiment pouvoir en parler et se constituer comme tel.
Oui, et puis après, il y a maintenant aussi simplement le contexte qui fait qu'aujourd'hui, ça s'y prête plus de porter plainte, entre guillemets, parce qu'il y a plus d'écoute, il y a plus de choses qui sont mises en place. Donc, c'est ça aussi qui fait que maintenant, 15 ans plus tard, il y a des personnes qui portent plainte. C'est parce qu'il y a 15 ans, juste la question ne se posait même pas parce que il y avait aucune chance, entre guillemets. Donc, je pense que c'est aussi... assez accédu, quoi.
Donc la première étape, c'est quand même d'aller voir soit un centre de prévention, soit aller à l'hôpital aux urgences, en fait, tout simplement pour faire constater pour faire constater l'agression.
Mais le mieux, c'est ça, parce que pour le moment, en tout cas, c'est les preuves matérielles qui.
La première chose qu'on a envie de faire, quand même, c'est de prendre une douche.
Mais c'est ça, oui.
Donc on constate les faits et puis on porte plainte. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. On n'en a pas toujours conscience aussi quand on voit ça de l'extérieur. Vous utilisez essentiellement le terme victime dans les médias. On nous dit souvent, surtout en anglais en tout cas, parce qu'en français ça sonne, on parle de survivante.
Ouais.
Pourquoi vous employez pas ce terme-là, vous ?
Ben c'est vrai que en fait, j'ai pas de réponse à cette question. On pourrait complètement l'utiliser. C'est vraiment plus parce que c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend encore beaucoup. Victime plutôt que survivante, mais c'est vrai que...
Pour ne pas placer justement cette personne qui a subi déjà ou qui a été... Oui, on utilise la forme passive, parfois c'est pas forcément non plus l'idéal, mais qui a subi des violences, pour pas la victimiser encore davantage, au contraire, lui faire sentir qu'elle s'en est sortie et qu'elle va s'en sortir, même si... c'est compliqué de sortir de ça, même quand on a porté plainte, de laver ça. Donc vous, en tout cas, c'est juste, vous employez ce terme-là.
Mais c'est une bonne question. Enfin, je pense que c'est un truc qu'on pourrait remettre en question. Je pense qu'on a commencé la SBL comme ça et que c'est pas une question qui s'est posée par la suite. Mais c'est une très bonne remarque. Enfin, moi, je retiens.
Alors concrètement, parce qu'on a parlé beaucoup de la genèse, on a parlé de ce que vous faisiez, mais comment ça se passe un atelier de sensibilisation ? Pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient faire appel à vous, vous passez dans les écoles, vous allez dans les familles, comment vous agissez exactement ?
On va dans les écoles principalement, mais on a aussi été dans des institutions pour des enfants qui sont placés sous la protection du juge, on a aussi... fait avec des adultes, avec des mouvements de jeunesse, etc. Donc, ça prend vraiment plusieurs formes différentes, mais donc avec des adultes, on va plus aborder en fait comment aborder le consentement avec les enfants, aussi les croyances des jeunes aujourd'hui par rapport au consentement. Et donc, ça va plus être théorique, je dirais. Et puis, ça peut être aussi des débats sur tout ce qui existe, en fait, voir un peu la réalité dans laquelle on vit maintenant, parce que les adultes n'ont pas la même réalité que les jeunes qui sont un peu immergés dans tout ce mouvement MeToo, etc. Mais donc, pour les jeunes, on commence par des mises en situation, donc qui sont, ils vont être divisés en petits groupes où ils vont discuter de, ils vont lire une situation en fait où le consentement est donné, pas donné, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait que ça pourrait se passer autrement, etc.
Quoi, par exemple, comme situation?
Ça peut être des situations qui sont, donc pour les plus âgés, ça sera autour du consentement propre et aussi autour du consentement sexuel, mais pour les plus jeunes, par exemple, donc c'est quelqu'un qui nous invite à une soirée. Et il nous dit « Viens, ça va être trop bien, ça va être trop chouette, faut trop que tu viennes. » Et c'est un nouveau dans l'école. Et donc, on essaye, en fait, de lui dire de venir à une soirée. La personne en face, elle pose plein de questions. Elle est un peu perturbée. Elle est pas hyper sûre de ce qui va se passer. Et puis, l'autre dit « Tu vas trop t'amuser, je viens te chercher demain à 8h. » Là, il y a toute la question aussi de l'intention, de l'interprétation. Donc en fait, la personne qui a invité l'autre à la soirée, finalement, son intention est bonne, c'est de l'intégrer, c'est gentil, mais finalement, est-ce qu'il lui a laissé la chance de dire non? Est-ce qu'il n'a pas interprété à sa place ce qui serait bon pour lui? Et donc, toutes ces questions d'influence, et pourquoi est-ce que lui, il n'a pas osé dire non aussi? Parce que aussi, voilà, il n'était pas dans une position hyper justement libre. C'est quelqu'un, lui, il est tout nouveau, il connaît personne. Donc il y a toute cette question de comment, en fait, le consentement... Comment est-ce que la situation aurait pu se poser autrement? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que l'autre ait vraiment l'espace, justement, de dire non? Et c'est souvent des situations où c'est pas hyper clair, dans le sens où là, finalement, on se dit pas que la personne qui a invité l'autre en soirée est méchante ou qu'elle voulait du mal. C'est juste, de nouveau, relaisser cet espace et pouvoir dire oui ou non, parce que là, en fait, l'autre avait pas vraiment l'espace de le faire, quoi.
Vous êtes allé dans beaucoup d'établissements, déjà?
Quand même, on a fait plusieurs écoles. On a fait, je pense, 10 écoles, mais 10 écoles, on va dans plusieurs années aussi. Donc, on fait pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Il y a vraiment une forte demande aussi, de plus en plus.
Donc, c'est une demande des enseignants?
Je pense que ça vient plus des enseignants qui sont plus engagés, certains. Surtout ceux qui sont autour de tout ce qui est soit éducateur, soit dans des cours de plus de philosophie ou de sciences humaines, etc. Et donc, qui vont plus aller chercher... ces thématiques-là. Et puis, les écoles nous contactent beaucoup, mais les élèves sont très demandeurs également de parler de ce genre de thème, quoi.
Quelles sont les questions les plus récurrentes qui vous sont posées par les élèves?
C'est, déjà, comment est-ce qu'on fait pour porter plainte? Comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un qu'on connaît subit une agression? Il y a vraiment une grande peur de la part des garçons de se faire accuser à tort.
Oui.
C'est pour ça que nous, on se concentre aussi vraiment sur le côté positif et non contraignant du terme consentement. Mmh. Parce que souvent, le premier mot qui vient avec le terme consentement, c'est viol.
Comment vous présentez la chose positivement?
Donc, on présente ces critères du consentement, donc libre, éclairé, conscient, spécifique, réversible et enthousiaste. Et on essaye de leur expliquer que voilà, on sait que ça, c'est un peu une ligne de conduite, c'est un peu une checklist qu'ils devraient avoir en tête. Pour quand ils vont avoir des relations sexuelles, de se dire bon, est-ce que en fait la personne en face de moi elle est vraiment libre? Est-ce que en fait on sait que dans la réalité des faits, mais peut-être qu'ils vont avoir des relations alors qu'ils seront pas complètement sobres. On le sait, enfin c'est pas, on n'est pas en train de leur dire que ce serait un crime si. On leur fait prendre conscience de tout ça et aussi on leur dit que finalement qu'est-ce que ça a de négatif de poser la question? C'est qu'en fait, dans la culture, dans les médias, c'est pas du tout montré. C'est dans les films, on voit pas du tout des personnes qui disent « Est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux te toucher là? Est-ce que je peux te faire ça ?» Donc, finalement, ils sont pas du tout habitués à ça. Et donc, c'est un peu déconstruire le fait que c'est super gênant de demander, qu'il faut surtout pas demander, parce que après, on a l'air de quoi. C'est un peu, du coup, rendre cette notion positive, quoi, et que ce soit pas associé directement consentement viol, parce que c'est quand même triste.
Et pour vous, il faut donner son consentement à chaque étape entre deux personnes qui viennent de se rencontrer. Il faut à chaque fois dire, est-ce que c'est ok? Est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux te prendre l'épaule?
C'est compliqué comme question parce que oui, dans l'idéal, c'est bien de le faire à chaque fois, mais je sais que dans les faits, ce sera pas le cas. Donc,
t'en penses quoi, Mélodie?
Oui, on se pose souvent la question, en fait, avec avec Romaine, parce que c'est vrai que mieux vaut le dire comme ça aux jeunes. C'est important de le dire que c'est le consentement, ça devrait être à tout moment et c'est partout. On sait que dans la pratique,
oui,
c'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur le consentement enthousiaste, parce que aussi via le paraverbal, on peut quand même comprendre si la personne est consentante ou non. Et c'est surtout en cas de doute.
Après, le problème, c'est que l'enthousiasme peut être vu de manière subjective aussi, donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que la réciprocité, par exemple, si on fait un câlin à quelqu'un et que la personne reste figée et ne prend pas le dans les bras, c'est assez clair, en fait, que il n'y a pas de consentement, même si elle a dit oui avant, même si elle était libre, même si... Il y a un moment, l'enthousiasme veut quand même dire beaucoup de choses, surtout dans des relations sexuelles, mais...
Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans cet article, le fameux article 475-5, c'est qu'on dit que ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. On sait que c'est vraiment... Il y a une interprétation très très large qui est octroyée au juge.
J'ai l'impression que ça veut tout et rien dire, en fait.
Enfin, vous avez une discussion déjà là-dessus?
Bah, on a déjà beaucoup parlé entre nous, avec d'autres, etc. aussi, avec des juristes. Bon, on n'a pas parlé précisément de ça, mais bon, on en parle un peu de tout ce qui est traitement de plainte pour agression sexuelle. C'est très compliqué. Il faut vraiment une vraie formation du corps pénal pour assurer que ces cas par cas sont bien jugés en pleine connaissance de cause. Comme on l'a dit avant, c'est quand même très complexe, les réactions des survivantes, parce que il peut y avoir plein de réactions différentes, et celles-ci sont souvent jugées aussi, en fait, les réactions.
C'est-à-dire, quel genre de réactions qui sont jugées?
Mais par exemple, quelqu'un qui va souhaiter mener sa vie comme si, en fait, ça ne l'affecte pas, ça va être aussi jugé, comme si, du coup, c'était pas une vraie victime, du coup. Enfin, ça peut être ce type de réaction-là, ou des réactions plus traumatiques. Donc, par exemple, dissociation, ou du coup, une personne, une victime, enfin, une survivante, comme vous voulez, lors de l'agression, ne va juste pas bouger. Et donc, ça peut être interprété par certains comme si ça voulait pas dire non nécessairement. Et donc, tout ça, il y a vraiment une nécessité à ce qu'il y ait une vraie formation pour comprendre la complexité qu'entraînent les violences sexuelles, et donc pour assurer que cette interprétation qui peut être large est au bénéfice d'une victime et non de l'agresseur.
Après, il y a juste dans la définition du viol, elle a aussi changé, et donc là maintenant c'est une pénétration, qu'elle soit par un objet, un doigt, un pénis, donc toute pénétration en l'absence du consentement de la personne, alors qu'avant c'était, si je me souviens bien, avec force ou menace. Donc il y a quand même une différence là-dedans déjà, qui, de nouveau, quand on voit ça, ok, sans consentement, mais c'est quand même en fonction de l'appréciation, enfin des circonstances. Mais il y a quand même ce changement-là qui est peut-être petit, mais qui normalement change quand même beaucoup de choses. Et c'est que depuis 2022. Donc,
2022, ouais. C'est vraiment la loi qui a un peu bousculé les codes. Et le code pénal, notamment.
Oui, tout à fait. Mais d'un côté, ça reste... Et c'est très dur, en fait, de prouver l'absence de consentement aussi. Et ça, en pratique...
Mais il est présumé, mais simplement pour les mineurs.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais donc, pour les victimes adultes, les survivantes adultes, ça reste... très dur de pouvoir amener ça, et donc là c'est vraiment appréciation
du juge.
Oui.
Est-ce qu'il y a autre chose comme activité à part ces animations de classe? Est-ce que vous faites autre chose aussi avec cette association?
Qu'on compte faire, c'est faire des ateliers sur le sexisme aussi, parce qu'en fait on le savait, mais qu'en fait en parlant de consentement et de violence sexuelle, le sexisme est un sujet qui est juste intrinsèque à ce sujet-là. Et que ce soit en fait des deux côtés, hein, que ça pour parce que les violences sexuelles sont souvent des violences sexistes, mais aussi parce que pour des hommes ça peut être plus difficile de parler de ça aussi. Donc on a voulu vraiment faire une formation là-dessus aussi. Donc ça c'est ce qui va se passer en principe début de l'année prochaine, et on va normalement se former à la fresque du sexisme aussi, qui est un peu comme la fresque du climat. C'est une façon en fait de pouvoir voir où on en est par rapport au sexisme et peut-être de se rendre compte de un peu du sexisme ordinaire qui peut avoir lieu dans notre vie quotidienne sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce que c'est tellement inhérent à la société qu'on le voit plus.
Et on compte du coup aussi sur base de ce que nous on a appris lors des animations, pouvoir créer un propre atelier aussi, vraiment sur le sexisme ordinaire aussi, les petites choses du quotidien qui font que qui enracinent toujours bien le sexisme, et on se tablera sur plutôt des adultes.
Comment est-ce qu'on peut vous aider?
Si voilà, vous êtes prof et que vous souhaitez faire de l'animation dans vos écoles, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours à la recherche de nouveaux partenaires.
Comment est-ce qu'on vous contacte? Il y a un email ou
un... On a un site web où il y a un onglet où on peut nous contacter. On a un compte Instagram, LinkedIn. C'est EduConsent sur Instagram, EduConsent sur LinkedIn, et puis www.educonsent.be pour le site.
Donc ça, c'est pour vous faire intervenir.
Évidemment qu'on est une petite ASBL, donc on a eu la chance d'avoir quelques subsides aussi. Mais les subsides, elles se terminent aussi. Donc on n'est jamais contre un petit don.
Donc comment on fait pour vous faire un don?
Donc on a sur notre site web détaillé nos coordonnées bancaires, où du coup il est possible de nous faire un don directement. Et ensuite, on est aussi repris par une ASBL que je vous conseille aussi fortement d'aller voir, qui s'appelle Better, qui aide justement à financer via des dons d'autres associations. Enfin, les dons sont défiscalisés via Better.
D'accord. Et ça, c'est important aussi de le préciser, que les dons sont défiscalisés. Je sais que parfois, ça motive les gens à donner davantage. J'ai quand même une question, moi aussi, à vous poser un petit peu plus en lien avec le podcast. Est-ce que vous auriez des podcasts à suggérer à nos auditrices aujourd'hui? Et ça n'a pas besoin d'avoir un lien particulier avec votre association, d'ailleurs, mais des podcasts qui vous font réfléchir, vous font rire, et que vous pensez que beaucoup d'autres personnes devraient écouter.
Moi, je conseillerais un très chouette podcast, très intéressant aussi, avec des chouettes intervenants, qui s'appelle La La La, Let Me Explain. C'est en anglais.
On est anglophones, hein, tous, là.
Voilà. et donc, c'est une podcasteuse britannique qui, mais je pense que du coup, ça plaira peut-être aussi aux auditrices de ce podcast.
Ça parle de quoi?
Donc, elle est maman divorcée d'un jeune garçon, si je ne me trompe pas. Et donc, elle parle beaucoup de ça, de sa situation, de comment c'est d'élever un jeune garçon, alors qu'elle aussi est très engagée sur beaucoup de sujets féministes. Par exemple, j'ai écouté dernièrement un podcast d'elle où elle parle de tout ce qui est cybersécurité pour les enfants sur le web. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et c'est vraiment un chouette podcast et elle est marrante aussi.
D'accord. Et ça me convainc tout à fait. Je vais aller l'écouter. Je ne connais pas du tout. Et toi, Romane?
Ben, du coup, moi, je conseille, mais je pense que beaucoup de gens le connaissent, Les Couilles sur la Table.
Ouais, oui.
Donc, qui est très sympa.
De Victoire Tuaillon.
Ouais. Elle est vraiment chouette et je trouve que elle interroge les choses d'une manière super intéressante. Elle interroge toutes les masculinités. Enfin, je trouve que ça aborde autant tout ce qui est homosexualité aussi, que je trouve intéressant. Et puis il y a Le Cœur sur la Table qui questionne les relations hétérosexuelles normatives. Donc ça, c'est super intéressant aussi pour essayer de se déconstruire un peu de tout ce qu'on pense qu'on sait, mais qui en fait est un peu une construction sociale.
Il y a un épisode qui t'a marqué particulièrement?
C'était Le Cœur sur la Table et c'était sur le fait qu'on était ou en plan cul ou une femme à chat ou une personne hétérosexuelle qui était mariée, qui avait des enfants. Et donc ça m'a
c'était
fait
les trois
rire
catégories
parce que,
pour les femmes.
C'était là.
D'accord.
C'est quand même marrant, quoi. Enfin, on est un peu dans un merdier si c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et je sais pas, elle a parlé de ça d'une manière hyper belle et qui déconstruisait complètement ces stéréotypes-là. Et donc, j'aimais beaucoup. Mais je me souviens plus du titre, je pourrais te le donner après.
Si tu le trouves trop, ouais, je crois que ça intéressera tout le monde, toutes les femmes en tout cas qui nous écoutent. Merci beaucoup, Mélodie et Romane, de nous avoir présenté EduConsent. Donc, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et longue vie à EduConsent.
Merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis.
Avec grand plaisir. Ciao. Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcasts, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible.
Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Quelque chose à vous dire podcast, ou envoyez-moi un email, quelquechoseavousdirepodcast@gmail.com. quelquechoseavousdirepodcast@gmail.com. Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !